monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kia Badou avec vous. Il est 17h30 en temps universel, 13h30 ici à Washington. Bienvenue dans votre émission Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 août 2019. À la une de l'actualité, au Tchad, un attentat suicide a fait 6 morts dans le bassin du lac Tchad, où Boko Haram est resté actif. En Tunisie, 26 candidatures à la présidentielle sont validées et 71 rejetées, mais ont jusqu'à demain pour faire un recours. Les hommages continuent pour saluer la mémoire de l'artiste ivoirien Didier Arafat, décédé lundi après un accident de la route. Le Pakistan promet de répondre à toute agression de l'Inde au Cachemire. Aussi, la Chine durcit le ton face aux manifestants à Hong Kong, qu'elle qualifie de terroristes. Dans 10 minutes, ne manquez pas l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Tchad, une kamikaze a fait sauter sa charge tôt ce matin à Kaïga, Kindjiria, dans la province du lac Tchad, faisant 6 morts. Précision avec notre correspondant André Komadjinga Ranjamena.
Parmi les personnes tuées dans cette explosion, il y a un représentant du chef de canton, 4 de ses gardes-corps et un militaire. Les responsables sécuritaires de la province du lac ont attribué l'explosion au groupe djihadiste nigérian Boko Haram. La kamikaze a réussi à s'infiltrer dans la concession du chef traditionnel de Kaïga Kingiria avec sa charge. Quand les services de sécurité du chef de canton ont procédé à son identification et les raisons de sa présence à cette heure, elle a fait automatiquement sauter sa ceinture explosive, tuant 6 personnes. Le bilan est confirmé par l'état-major général des armées. Selon notable qui requiert l'anonymat, la kamikaze serait une femme de la localité. C'est ainsi qu'elle a bénéficié de l'hospitalité légendaire des gens de la cour du palais du chef de canton. Toute la cour et l'entourage du chef de canton ont été désagréablement surpris qu'il s'agisse d'une femme connue du village. Le chef de canton n'est pas touché par cette explosion qui impacte sur le comportement social de la population de cette localité. La région du lac Tchad est le théâtre d'un regain d'attaque attribué à Boko Haram. L'insurrection de Boko Haram qui a débuté en 2009 dans le nord-est du Niger et sa répression par l'armée ont fait plus de 27 000 morts et 1,8 million de déplacés dans le pays riverain du lac Tchad. André Kodmadjinga Ndjamena, VO Afrique.
Au Libéria, quelques 15 000 fonctionnaires n'ont pas été payés depuis plusieurs mois pour certains, ce qui risque de renforcer la corruption, en particulier au sein du système judiciaire. À l'occasion justement de la rentrée judiciaire au Libéria, un magistrat de Monrovia, Willie Roosevelt, s'est inquiété de cette situation qui ne peut que renforcer les pratiques de corruption déjà très répandues, selon lui, dans les tribunaux libériens. Par ailleurs, une enquête a été ouverte à Monrovia sur la délivrance de passeports libériens à des étrangers par un haut responsable de l'administration. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole adjoint de la présidence. Au Nigeria, l'avocat et le gendre de l'opposant, Atiku Abubakar, adversaire de Muhammadu Buhari, à la présidentielle de février, ont comparu ce mercredi devant la justice qui les accuse de blanchiment d'argent. Depuis le vote, plusieurs proches du candidat malheureux ont été pris pour cible par l'agence anticorruption au cours de ce que les partisans d'Abubakar qualifient de chasse aux sorcières. Les deux accusés ont plaidé non coupables devant le tribunal de Lagos. Le Burundi a commencé à vacciner contre Ebola. Son personnel de santé positionné à la frontière avec la République démocratique Congo, pays dans lequel le virus a déjà tué près de 1900 personnes en un an, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Les hommages continuent d'affluer après la mort de l'artiste Didier Arafat. Ange Didier Huon est décédé à 33 ans lundi suite à un accident de la circulation. Notre correspondant au Burkina Faso a recueilli des réactions à Ouagadougou. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. En Tanzanie, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne fait état de 82 morts après le décès lundi soir de 7 personnes qui ont succombé à leurs graves blessures. La commission doit rendre ses premières conclusions vendredi. Une base militaire située à 70 km au sud de Mogadiscio a été attaquée par des combattants islamistes Shebab qui ont fait exploser des voitures piégées et ouvert le feu contre les soldats, a-t-on appris de sources militaires. Les Shebab ont affirmé avoir tué beaucoup de soldats dans cette attaque, survenue dans une localité qui avait été reprise la semaine dernière aux islamistes par les forces de sécurité somaliennes et les soldats de la force de l'Union africaine en Somalie. Au Soudan, les graffitis réalisés ces derniers mois par le mouvement de protestation sont en train d'être effacés à Khartoum, a dénoncé la contestation, demandant demandant aux militaires au pouvoir d'arrêter de détruire ce qui a, pour eux, une valeur très importante. Plus de 250 personnes ont été tuées dans le cadre de la répression du mouvement de contestation, selon des médecins proches des protestataires. En Tunisie, 26 candidatures à la présidentielle anticipées du 15 septembre ont été validées et 71 écartées au terme d'un examen des dossiers annoncé l'instance chargée des élections. Le point avec Idriss Fall.
Toute personne dont le dossier a été rejeté peut déposer un recours à partir de demain 15 août. L'annonce de la liste finale des candidats sera dévoilée le 31 août d'après Nabil Bafoun, président de l'instance chargée des élections en Tunisie. Parmi les candidatures rejetées figure celle de Mounir Batour, qui se dit ouvertement homosexuel. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 15 septembre. La campagne électorale doit se tenir entre le 2 et le 13 du même mois. Initialement prévue en fin d'année, cette élection a été anticipée à la suite du décès à 92 ans, le 25 juillet, de Bézi Caïd Essebsi, premier président démocratiquement élu. C'est le président du Parlement, Mohamed Ennasser, qui assure l'intérim. Le scrutin présidentiel et les législatives seront de nouveaux tests pour cette jeune démocratie, berceau du printemps arabe, et qui reste confronté à d'énormes difficultés économiques et sociales.
Au Malawi, deux hommes et une femme ont été condamnés à mort par un tribunal pour le meurtre d'un albinos. Les trois condamnés étaient accusés d'avoir tué à coups de barre de fer et de manches de pioche en 2015 un albinos avant de le découper et de l'enterrer clandestinement. Le Malawi n'a pas procédé à une exécution capitale depuis 1994. Les condamnations à mort sont commuées en détention à perpétuité. Une ONG espagnole qui a recueilli quelques 150 migrants méditerranéens a affirmé avoir obtenu qu'un tribunal italien suspende un décret qui interdisait à son bateau d'entrer dans les eaux territoriales italiennes. La seule chose qui manque, c'est que nous assigne un port pour débarquer, a expliqué Oscar Camps. Il assure que son ONG entendait bien respecter les procédures légales. Un soulagement, car il a alerté plus tôt dans la journée de ses inquiétudes d'éventuelles bagarres pouvant éclater à tout moment entre les migrants épuisés et stressés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Pakistan a mis en garde l'Inde contre toute agression dans sa partie du Cachemire, un territoire majoritairement peuplé de musulmans pour lequel les deux pays se sont déjà livrés deux guerres. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'armée pakistanaise dispose d'informations solides selon lesquelles ils ont l'intention de faire quelque chose au Cachemire pakistanais, a déclaré le premier ministre Imran Khan, ajoutant, je cite, « Si l'Inde commet une violation, nous nous battrons jusqu'au bout ». De son côté, le chef d'état-major de l'armée, le général Qamar Javed Bajwa, a affirmé que ses troupes sont prêtes. Le ministre des Affaires étrangères, Sam Mahmood Qureshi, avait pourtant déclaré jeudi dernier que son pays n'envisageait pas l'option militaire. Les tensions entre le Pakistan et l'Inde se sont amplifiées après la décision de New Delhi de révoquer l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu'elle contrôle et qu'Islamabad revendique. Les nationalistes hindous ont fait voter par le Parlement la dislocation de la région. Ces mesures qui visent à placer cette région sous tutelle de New Delhi ont été qualifiées d'illégales par le Pakistan. Les deux pays se disputent le Cachemire depuis leur partition en 1947 au terme de la colonisation britannique. Islamabad avait indiqué vouloir porter l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU et la Cour pénale internationale. Le Pakistan a expulsé l'ambassadeur indien et mis un terme au commerce bilatéral.
À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ont quitté l'aéroport après deux jours de rassemblements de masse qui ont paralysé le 8e aéroport le plus peuplé au monde. La Chine a durci le ton contre les manifestants. Plus de précisions avec Dili Dico.
Après deux jours de paralysie, ce matin, le fonctionnement de l'aéroport de Hong Kong est revenu à la normale, même si de nombreux vols ont été retardés. On ignore si les manifestants envisagent de revenir occuper l'aéroport plus tard. Leur mouvement n'a pas de dirigeants connus et les manifestations sont organisées de manière anonyme via les réseaux sociaux. La Chine a vigoureusement dénoncé des agressions quasi terroristes contre ses ressortissants. Hier, deux Chinois du continent ont été passés à tabac au cinquième jour d'une mobilisation à l'aéroport. C'est la deuxième fois que la Chine cherche à assimiler les manifestations à du terrorisme, faisant craindre une répression alors que le mouvement entre dans sa dixième semaine. Mardi, le président américain Donald Trump a fait monter les craintes d'une intervention militaire en affirmant que les renseignements ont fait état d'un déploiement de l'armée chinoise à la frontière avec Hong Kong.
En Syrie, un avion du régime a été abattu par les djihadistes dans le nord-ouest du pays et son pilote capturé, une première depuis l'escalade militaire des derniers mois dans cette région pilonnée par les forces pro-Damas, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. L'économie, on en parle avec Nani Talani dans la Minute Éco.
Pour le premier trimestre de cette année, le Togo a enregistré une hausse de 16% des dépôts dans les microfinances, d'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, rapporte Togo First. Le Togo prend ainsi la deuxième place dans la zone UEMOA derrière le Mali. Ensuite viennent respectivement la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Les dépôts collectés pour ce trimestre dans l'ensemble de l'UEMOA s'élèvent à 1390,8 milliards de francs CFA contre 1248,7 milliards de francs CFA l'an dernier, soit une hausse de 11,4%. L'accès des populations aux services des microfinances s'est accru de 10,4%. La société d'enseignement privé sud-africaine Kuro Holdings investira 14,66 millions de dollars dans l'ouverture de 4 nouveaux campus. Kuro, qui gère des écoles et des établissements d'enseignement supérieur en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie, a connu une hausse fulgurante grâce aux parents frustrés par les écoles publiques sous-financées et surpeuplées. Au premier semestre, le nombre de ses élèves a augmenté de 13%, augmentant ses revenus de 19%. Terminons cette minute éco avec la Gambie qui a reçu l'an dernier 245 millions de dollars de ses ressortissants vivant en Occident, soit une hausse de 17 millions de dollars par rapport à 2017. Cela représente 15,3% du PIB du pays. Ces envois dépassent les exportations du pays en 2018 qui sont de 91,62 millions de dollars.
C'est l'heure de notre page sportive qui nous est présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Aïkia, bonsoir à tous.
Afro-basket féminin, l'Angola défiera le Sénégal en quart de finale.
Oui, en huitième de finale, l'Angola s'est imposée devant le Kenya 64-51. Les Antilopes noires feront face aux Lions sénégalaises en quart de finale dans le deuxième rendez-vous de la journée. Après son échec cuisant d'hier devant le Mali 82-56, la RDC s'est reprise en dominant le Cap-Vert 78-46. Pour le moment, en plus du Sénégal, le Mozambique, le Mali et le Nigeria se sont qualifiés pour les quarts de finale.
Basketball toujours, la sélection ivoirienne a repris la préparation du mondial sous réserve.
D'après Sport Ivoire, la grève entamée lundi par les éléphants basketteurs a contribué à faire bouger les lignes. Le ministère des Sports a dépêché un agent comptable auprès des joueurs qui réclament des primes impayées qui s'élèvent à plus de 2 millions de francs CFA chacun. En attendant l'arrivée du comptable, les éléphants ont accepté de reprendre les entraînements. Après un premier séjour en Italie ponctué par deux matchs, les éléphants sont en Espagne pour trois autres matchs, dont deux dans le cadre du tournoi d'exhibition contre le pays hôte et les Philippines. Les Ivoiriens sont logés dans le groupe A du mondial avec la Chine, le Venezuela et la Pologne.
En football, Laurent Blanc décline la sélection marocaine.
Selon RMC Sport, le technicien français ne sera pas le prochain sélectionneur des Lions de l'Atlas après le départ d'Hervé Renard dans la foulée de la CAN 2019 où le Maroc a été éliminé en huitième de finale. La sélection des Lions de l'Atlas avait fait de Laurent Blanc son choix pour reprendre les rênes, mais l'affaire engagée n'ira pas plus loin. L'ancien entraîneur du PSG a décliné l'offre après trois saisons à la tête des Girondins de Bordeaux et deux ans au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Laurent Blanc a coaché le PSG durant trois saisons de 2013 à 2016. Le Bosniaque valide Ali Lodic est en bonne voie pour remplacer Renard à la tête des Lions de l'Atlas.
L'Algérien Rami Benzebaini quitte Rennes.
Le défenseur algérien, vainqueur de la CAN en juillet, s'est engagé jusqu'en 2023 avec Mönchengladbach. Le joueur de 24 ans rejoint ainsi le club allemand qui a terminé cinquième du dernier championnat et jouera cette saison en Ligue Europa. Rami Benzebaini pourra faire ses débuts dès samedi à domicile contre Schalke pour le premier match de la Bundesliga. Rami peut jouer à arrière gauche ou central, il nous apportera beaucoup d'expérience de ces trois années réussies dans un très bon club de Ligue 1. C'est félicité le directeur sportif du club, Max Eberle.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à présent notre tranche magazine. La route tue énormément au Togo. Pour les 7 premiers mois de l'année, plus de 350 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation. Les causes sont relatives au non-respect du code de la route. Le ministère togolais de la Sécurité met en cause les conducteurs de motos, dont la grande majorité sont sans permis de conduire. Dès le 20 septembre prochain, le permis de conduire sera obligatoire pour les motocyclistes au Togo. C'est ce que nous explique ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2019, 3178 accidents se sont produits sur les routes togolaises, ayant occasionné 354 décès et 4483 blessés. Pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les causes de ces accidents sont entre autres l'excès de vitesse, des dépassements mal faits, la distraction en circulation en raison de l'utilisation notamment du téléphone portable, la conduite en état d'ébriété et ou sous l'influence des stupéfiants. Dans ces accidents, les conducteurs de motos sont les plus impliqués du fait, soutient le gouvernement, que ces derniers ont une connaissance assez limitée du code de la route. Yak Damhan, ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile.
La division de la sécurité routière a sensibilisé les conducteurs de moto à passer le permis de conduire. Permis de conduire, ça concerne beaucoup l'apprentissage du code de la route. Malheureusement, nos compatriotes motocyclistes ont encore du caillou dans le pied. Parce qu'ils se disent, permis ou sans permis, je peux piloter ma moto. Avec les conséquences que nous venons de voir. La mesure que nous avons prise, on arrête un motocycliste, il n'a pas de permis, sa moto a en fourrière.
Dès le 20 septembre prochain, le permis de conduire devient obligatoire pour tout motocycliste. Jean, détenteur d'un permis de conduire pour moto, salue la décision du gouvernement.
J'ai mon permis de conduire catégorie depuis 2015. Donc moi je vois que ce projet c'est une bonne proposition. Mais il faut que le ministre sache très bien que les Anglais disent « charity begins at home ». Il faut que les agents de sécurité eux-mêmes, ils n'ont qu'à essayer d'avoir d'abord le permis pour servir d'exemple.
Ce que le gouvernement a mis en compte, ce n'est pas mal, mais le temps qu'ils ont donné est trop court. Parce qu'il y a plein de motos. S'il faut que tout le monde fasse le permis de conduire de moto, ça va prendre du temps.
Pour réduire les accidents de circulation, Kodjo Agbetrobo fait une toute autre proposition.
Ce n'est pas le permis qui va permettre de réduire le nombre d'accidents. C'est plutôt de mettre les agents de force de sécurité à des carrefours pour éviter certaines choses. Par exemple, comment on roule sans respecter les feux rouges. Parce que ce n'est pas manque de permis qui font causer les accidents, c'est manque de conscience dans la conduite sur tout ça.
Le Togo s'est doté d'une loi relative au code de la route et le gouvernement compte appliquer cette loi dans toute sa rigueur pour réduire les morts sur les routes togolaises. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les effondrements de bâtiments sont fréquents au Nigeria où les réglementations en matière de construction sont régulièrement bafouées. Une situation que déplorent les Nigérians qui estiment que la corruption est l'un des facteurs qui mine ce secteur. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Une enquête récente a révélé que des effondrements fréquents de bâtiments au Nigeria sont causés par des défauts structurels et des constructions illégales. Partout à travers le pays, l'utilisation des mauvais matériaux de construction est très répandue, selon l'ingénieur Joseph Odigure, secrétaire général du Conseil des ingénieurs au Nigeria.
Collapse buildings depends on Les effondrements de bâtiments dépendent de plusieurs facteurs, mais je vais me concentrer sur l'ingénierie. Tout ce que nous faisons est ingénierie. Tout est planifié. Et puis, toute chose possède une vie. De la même façon que nous vivons, c'est de la même façon que les matériaux aussi vivent. Donc, puisque tout est vivant, il est nécessaire de planifier et de maintenir ces structures.
Certains bâtiments jugés inhabitables par les autorités sont souvent rénovés par des propriétaires afin de leur permettre de mettre ces bâtiments en location et d'obtenir des frais de loyer. Mais pour Ayodele Yemi, les seuls responsables sont les architectes.
Pour moi, je vois que ce n'est pas le propriétaire du
bâtiment. Pour moi, il ne s'agit pas des propriétaires du bâtiment ni le gouvernement. Ce sont des ingénieurs ou des architectes qui ont fait le plan du bâtiment. C'est ce que moi je ressens. Et quand nous allons faire ce qui est conforme, nous n'aurons plus ce problème.
Au cours des 4 dernières années, le Nigeria a enregistré plus de 60 cas d'effondrement de bâtiments, faisant plusieurs centaines de morts et des dégâts matériels importants. Le dernier incident en date qui s'est produit à Lagos, l'état le plus affecté, concernait un bâtiment de 3 étages abritant une école qui s'est effondrée, faisant 20 morts dont 10 enfants et 45 blessés. Mais si l'effondrement du bâtiment est un monstre redouté, la gestion des permis de construire et le processus de contrôle du développement semblent poser un problème encore plus important, car la corruption dans le processus d'approbation de ces permis est devenue difficile à gérer. Une corruption qui implique également le personnel des entreprises de construction. Dadi Panan vient de l'état du plateau.
Récemment, nous avons été victimes de ces mêmes problèmes dans l'état du plateau. Et quand vous enquêtez bien, souvent la corruption est à la base de tout. Parce que vous découvrirez quel genre de personnes étaient responsables de faire le choix des matériaux qui doivent être utilisés. Vous allez comprendre que ces gens ne font pas réellement leur travail.
Pour y mettre fin, il faudra un engagement considérable de toutes les parties concernées. L'ingénieur Joseph Odikure, du Conseil des ingénieurs du Nigeria.
Il faut avoir de bons spécialistes pour te conseiller. Cela est très important. Il ne faut rien négliger, comme par exemple le test du sol, et demander quel type de matériaux il faut utiliser et le plan qu'il faut adopter. Donc, le propriétaire doit poser des questions pour éviter de perdre son argent. L'ingénieur aussi doit poser des questions pour ne pas qu'il perde sa licence. Tout le monde doit faire son travail.
Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque année à l'initiative de l'ONU. L'occasion de braquer les projecteurs sur les jeunes d'Afrique, le continent avec la population la plus jeune au monde. L'Afrique en tire-t-elle profit? Mais pourquoi les défis tels que l'emploi, l'éducation et la migration des jeunes perdurent-ils? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h10.
Lorsqu'il était petit, Luol Deng et sa famille ont fui la guerre civile dans ce qu'ils allaient devenir le Soudan du Sud. Deng deviendra plus tard une star de la NBA aux États-Unis. Maintenant, il utilise ce qu'il a appris sur le terrain pour soutenir les jeunes du Sud-Soudan et leur apporter l'espoir. Un reportage de chez Laponia Jouba, le récit avec Yakuba Ouedraogo.
L'ancien joueur de la NBA, Luol Deng, s'est rendu ce mois-ci dans son pays natal, l'actuel Soudan du Sud. Sa fondation a construit un terrain de basketball portant le nom de Manute Ball, ancienne star de la NBA. Aujourd'hui, Luol Deng encourage les jeunes joueurs.
C'est un outil pour sortir les enfants de la rue, mais aussi pour les occuper et leur apprendre à travailler ensemble, à communiquer. Donc c'est vraiment plus que du sport.
Dans sa jeunesse, Deng et sa famille ont fui la guerre civile au Soudan et sont allés en Égypte. Là-bas, Deng a rencontré Manute Ball, ancien pivot de la NBA et en même temps un humanitaire qui lui a appris à jouer au basketball. En 2015, la fondation Luol Deng a ouvert le terrain de Manute Ball à Djouba à la mémoire du grand Manute Ball décédé en 2010. La fondation travaille avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et NBA Africa pour construire des terrains de basket à ciel ouvert pour approcher les communautés. Ces terrains et l'exemple de Deng inspirent de jeunes joueurs comme Sandy Abraham.
Certains joueurs obtiennent des bourses d'études en Europe et en Amérique à cause de leur manière de jouer.
Mais la Fondation Deng ne se limite pas seulement au basketball.
Nous faisons beaucoup d'autres choses. Par exemple, nous avons 10 médecins que nous envoyons chaque année depuis 5 ans maintenant. Ils pratiquent des chirurgies dans tous les Soudans du Sud.
Djuma Stéphane Louga est le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'État de Djoubek. Pour lui, l'œuvre caritative de Deng est inestimable.
Ce que fait Luol est formidable et très apprécié, car il apporte de l'espoir à nos jeunes et à nos adolescents.
Deng a été deux fois membre de l'équipe des vedettes de la NBA. Il a rejoint les Chicago Bulls en 2004 et a disputé son dernier match avec les Timberwolves du Minnesota en 2018. Ses futurs plans pour le Soudan du Sud sont la construction d'une académie de basket et l'inclusion d'un plus grand nombre de filles dans ce programme.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'Afrique pleure la star du coupé décalé DJ Arafat et au Burkina Faso, pays voisin de la Côte d'Ivoire, la mort du musicien ivoirien est toujours un choc. Des fans aux professionnels de la musique, tous regrettent et déplorent cette perte brutale de DJ Arafat. Pour certains, il sera difficile de le remplacer. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
La mort lundi de DJ Arafat a choqué les Burkinabés. DJ Arafat, la star du coupé décalé, le Daïchikan, l'un de ses multiples derniers surnoms, s'en est allé au lendemain d'un accident sur sa moto. Les Chinois, comme il appelait ses fans, sont désemparés. Nafi Ouedraogo, une mélomane, n'aimait pas la musique de Arafat DJ, mais elle était fascinée par la personnalité du musicien, son esprit combatif.
Arafat, c'est une personne que j'appréciais bien, pas sa musique, mais sa personnalité. Une personne qui se battait, il faisait tout pour arriver à ses fins. Sa mort m'a beaucoup choquée. Je n'arrive toujours pas à le croire qu'il est parti aussi facilement.
Il faut se questionner maintenant sur l'avenir du coupé décalé.
Il n'y aura pas de remplaçant. C'est fini ça.
Salif Ouedraogo, dit Ackerman, est un inconditionnel de DJ Arafat. Et ce, depuis des années. Il connaît bien le parcours du musicien.
Doux Saram, partant, avait un certain nombre de soldats qui étaient prêts à assurer la relève. Aujourd'hui, le Beru Sama est parti. Quand tu regardes autour, il n'y a pas quelqu'un qui a le charisme et le leadership nécessaire pour conduire ce mouvement-là. Il n'y en a pas. De plus en plus, les gars font de la trappe, de l'afro-trappe. Et le coupé décalé était en perte de vitesse.
Du côté des professionnels de la musique au Burkina, c'est une énorme perte pour l'Afrique, cette disparition de Arafat.
Il a marqué son passage, c'est une icône.
Salfo Sori, dit Jafres, est l'un des plus grands promoteurs et organisateurs d'événements du pays.
Il a bouleversé le monde du showbiz par sa manière d'être. Sa manière était assez particulière. Et ce buzz, il va manquer à tout le monde, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. Mais je pense que la leçon qu'on doit en tirer, c'est que quel que soit qui tu es, comment tu es et comment les gens te voient, il faut avoir de la mesure dans tout ce qu'on fait.
Papus Ismaïla Zongo est un producteur de musique. Son musicien Flobi a d'ailleurs collaboré avec DJ Arafat.
C'est dommage, quand on a appris cette nouvelle, on a pensé dans un premier temps qu'on était encore dans la logique buveuse. C'était un grand choc pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique, mais pour tous les jeunes aussi qui s'identifient à cet artiste musicalement parlant.
Emilio Le Chanceux est la star du coupé décalé au Burkina. Il a connu le boss de l'Aérogang.
C'est un roi, hein. Il le disait toujours, il disait qu'il allait mourir comme un roi. C'est quelqu'un qui est vraiment aimé, qui a vraiment une foule derrière lui. Franchement, ça fait mal, ça fait mal.
DJ Arafat s'est produit plusieurs fois au Burkina Faso, où il comptait des milliers de fans. Ce qui lui a valu d'ailleurs le trophée de Koundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest en 2011. C'est la plus grande distinction de la musique au Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à Joselle Morissin pour la mise en onde. C'était Ekia Badou à Washington et on reste en contact via notre site www.voafrique. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA.
VOA Afrique, les